Amen.
Yes, on a la joie ce matin d'avoir un message de David Guya, un message qui brûle dans son cœur. Et puis je crois que son cœur, ce que Dieu lui a mis, dans son cœur, ça va être contagieux. Et puis que ce cœur enflammé, il puisse enflammer toute la salle et qu'on soit prêt vraiment à recevoir ce qu'il a à nous dire. Yes.
Alléluia. Et je suis ému ce matin parce qu'il est là. Dieu est là au milieu de nous ce matin. Alors qu'on était dans la louange, j'ai juste entrecroisé le visage du Fils avec ses flammes de feu. Qui était là. Et il est là ce matin pour enflammer nos cœurs, enflammer nos vies. C'est pas juste un culte, c'est un rendez-vous que Dieu a avec toi. Et il est au rendez-vous et il veut nous toucher puissamment. Et j'accueille sa vie et son esprit. Viens, Saint-Esprit, à toi l'honneur, Jésus. Enflamme nos cœurs. Toi, le roi des rois, seul Seigneur, à toi la gloire ce matin. On a fait monter vers toi cette adoration, cette louange. C'est pour toi, que tout soit pour toi, par toi, de toi. À toi toute la gloire. Et viens saisir nos vies, viens allumer nos cœurs. Gloire à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu es là, merci pour ta présence. Merci parce que tu viens au milieu des louanges de ton peuple. C'est pas juste un verset. C'est une réalité spirituelle. Gloire à toi et merci de faire honneur d'être ici dans cette salle avec nous, Seigneur. Et nous accueillons ton esprit. Viens presser nos cœurs. Viens toucher nos vies ce matin. Alléluia. Amen. Si Jésus est là, il est digne d'un applaudissement encore plus fort. Seigneur, on veut t'applaudir. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. J'aime tellement quand on peut être ensemble, qu'il nous honore de sa présence. J'aime tellement le louer seul, chez moi aussi, l'adorer. Et quand tu l'adores seul, chez toi, dans ta chambre ou quand tu te promènes dehors, c'est comme une fleur que tu donnes au Seigneur. C'est ton parfum d'adoration. Et ce que je trouve extraordinaire quand on est tous ensemble ici, qu'on se réunit dans nos cultes tous les 15 jours, c'est que c'est un bouquet qu'on y offre. On dit « Seigneur, voilà le bouquet, voilà nos louanges. On t'a chanté, c'était notre cœur. Ce n'est pas juste des chants, mais c'est notre adoration. » Et voilà, je suis tellement touché, j'aime le louer tout seul chez moi et offrir juste ma petite fleur d'adoration, l'aimer. Mais quand on est ensemble, il y a une dimension qu'on n'a que quand on est ensemble, et ça c'est génial. Et ce matin, Dieu m'a parlé pour ce message, et ça fait plusieurs mois que j'attends de le donner. J'attendais que ça soit la Pentecôte, et j'ai hâte. J'ai hâte parce que je crois vraiment que c'est un rendez-vous divin. Et j'avais pas imaginé cette image que je vous ai partagée avant, ça c'est venu juste avant, je n'imaginais pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu à l'avance, mais je crois vraiment que c'est un rendez-vous divin aujourd'hui que Dieu a avec nous. Et Pentecôte, c'est quelque chose, c'était déjà une fête dans l'Ancien Testament, qui se fêtait notamment, on fêtait la moisson, on fêtait les récoltes, on amenait à Dieu les prémices, c'est-à-dire la première partie de la récolte. Et cette fête, Shavuot en hébreu, on y commémorait aussi le don de la loi qui avait été donné à Moïse, on célébrait ça. Et si je place ça en introduction, un peu, c'est pour, dans ce contexte, c'est pour que vraiment on puisse réaliser tout le sens, vraiment, de la Pentecôte qu'on fête aujourd'hui. Et dans cette nouvelle Pentecôte, ensuite, qui a eu du temps après Jésus dans le Nouveau Testament, c'est un groupe de 120 personnes, 120 personnes, les disciples, des hommes, des femmes, qui attendaient dans cette chambre haute la promesse que Jésus avait faite, que le Saint-Esprit allait être donné sur tous. Et c'est lors de cette fête-là, de la Pentecôte, qui se fêtait déjà chaque année, tout le temps, que c'est arrivé, que le Saint-Esprit est déversé avec puissance, un moment tellement fort qu'il a encore un impact aujourd'hui. Et Acte 2 nous dit que tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle violent d'un violent coup de vent. Et le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Et tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Et il s'en est suivi ensuite des milliers de conversions. La création ensuite de la première église de Jérusalem, c'est d'ailleurs le frère de Jésus, Jacques, qui en a été le pasteur, le responsable. Mais ce qui est fou, c'est que non seulement le Saint-Esprit est répandu sur chacun, mais que ça se produise en pleine fête de la Pentecôte. À la Pentecôte, comme j'ai dit, on fêtait la loi qui avait été donnée sur des tables de pierre. Et c'est précisément alors qu'on commémore ça que le Saint-Esprit est venu graver dans les cœurs. Plutôt que sur la pierre, il est venu graver dans les cœurs. Cette loi, c'est l'accomplissement de Jérémie 31-33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et ça, il l'a fait par le Saint-Esprit. Et alors qu'à la Pentecôte, on fêtait la moisson du blé, qu'on offrait les prémices à Dieu, voilà qu'il y a une première moisson spirituelle avec 3000 conversions, justement à la Pentecôte, qui se tourne vers le Seigneur. Les prémices aussi qui ont été données, l'Église. Vous voyez le parallèle ? Et enfin, et c'est entre autres ça qui va nous intéresser ce matin, à la Pentecôte, on fêtait la loi qui avait été donnée à Moïse, cette rencontre de Dieu avec Moïse, qui s'était manifestée avec du feu, du tonnerre et nuée dans Exode 19-18. Et voilà qu'à la Pentecôte, dans Acte 2, le Saint-Esprit est répandu comme des langues de feu et il y a du bruit qui se manifeste et des manifestations, un peu comme Moïse qui était tout seul à le vivre sur la montagne. Et là, ça devenait collectif pour les 120 qui avaient faim et soif, qui attendaient le Seigneur et le Saint-Esprit. Et là aussi, il y a un parallèle. Et là, ça devient accessible à chacun. Et je trouve fort. Et ce n'est pas un hasard si Dieu répand son esprit justement lors de cette fête. Ce n'est pas juste tombé comme ça, mais il y a quelque chose de nouveau qui commence. La loi qui est écrite dans les cœurs, alors qu'on fête la loi. Une première moisson d'âme, alors qu'on fête la moisson. Et le Saint-Esprit qui vient comme un feu, alors que Moïse a reçu, a été touché par ce feu de Dieu. C'est fort. Pour moi, c'était comme une révélation de réaliser ça. Dieu, il n'est pas venu au hasard n'importe quand pour amener cette nouvelle dimension de son esprit. Et je suis convaincu que la Pentecôte, ce n'était pas juste un moment fort pour les disciples et les autres autour, les 120, il y a 2000 ans, mais que ça a un impact encore aujourd'hui pour que ça continue. C'est vraiment une nouvelle alliance qui commence, une nouvelle moisson spirituelle qui s'ouvre, une nouvelle proximité avec Dieu qui devient possible par le Saint-Esprit. Et le message pour tous les peuples, et pas qu'un seul. Et il parlait dans différentes sortes de langues. Waouh ! Il y a quelque chose qui s'est passé pour que ça continue encore aujourd'hui. Et pas juste comme un souvenir, pas juste comme un week-end prolongé, férié, mais une puissance qui change les vies, qui change l'Église, qui change les nations. Et ce verset d'Éphésiens 5:18 de Paul qui prend vraiment tout son sens quand il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». En fait, la façon dont c'est écrit à la base, ça veut dire « Laissez-vous continuellement remplir de l'Esprit ». Continuellement. Ce n'est pas juste un événement dans le temps, mais c'est quelque chose dans la durée, c'est un processus qui grandit et qui grandit encore. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, alors qu'officiellement on célèbre la Pentecôte, que c'est noté dans nos calendriers, qu'on aura congé pour la plupart demain. Moi j'ai envie qu'on puisse vivre pleinement cette Pentecôte, une Pentecôte à fond, une nouvelle Pentecôte, une Pentecôte 2.0, quelque chose de nouveau pour nous aujourd'hui. Avant ça, j'aimerais encore prier. Et Seigneur, je te remercie parce que tu t'es révélé de façon particulière, alors qu'il y avait cette fête annuelle j'ai dit récurrente de la Pentecôte, c'est là que tu as choisi d'amener une nouvelle dimension de l'Esprit pour tous et puissante. Et Seigneur, je crois aussi que c'est quelque chose qui est annuel, c'est quelque chose qui est continu, c'est quelque chose que tu veux faire grandir encore aujourd'hui. Cette puissance que tu as répandue, qui a amené une moisson, qui a amené les prémices, qui a amené l'Église, qui a amené, Seigneur, un impact dans le monde, qui a amené un envoi. Seigneur, c'est ça qu'on désire ce matin. Et Seigneur, on ne veut pas juste regarder aujourd'hui dans le rétroviseur et se commémorer les théories de la Pentecôte, mais Seigneur, on veut regarder de l'avant, là où on va aujourd'hui et où tu nous mènes demain. Par ton esprit, c'est ça qu'on désire. Et je te prie ce matin, Seigneur, que tu viennes ouvrir nos cœurs. Merci parce que tu es là déjà. Merci parce que tu es venu et tu restes là. Il y a tes yeux qui regardent, qui nous regardent, et tu as envie d'enflammer nos cœurs. Et Seigneur, je te prie de venir enflammer nos cœurs ce matin. Et Seigneur, viens enflammer, viens détruire tout esprit d'incrédulité et viens mettre une foi pour ce que tu veux faire encore aujourd'hui. Amen. Et dans cette perspective d'être touché puissamment par ce feu de la Pentecôte, ce matin, j'aimerais qu'on prenne un texte qui en fait est une vision qu'a eu le prophète Zacharie. Ça fait quelque temps justement que ça m'a interpellé. Et c'est aujourd'hui, justement, à la Pentecôte, je crois que Dieu veut nous parler à ce propos. Zacharie, c'est un prophète de Dieu, que Dieu a suscité au moment où le peuple revenait en Israël après avoir été exilé à Babylone. Et ils sont revenus. Et il était là pour encourager les gens à reprendre courage dans cette reconstruction du temple, alors qu'ils recommençaient à reconstruire le temple avec Zorobabel notamment. Parce que même si c'était dur, même si ça paraissait tout petit et insignifiant, il les encourageait par ses paroles. Il parlait en même temps qu'un autre prophète, le prophète Agée. Mais ce qui est fort avec Zacharie, c'est que Dieu lui donne des visions un peu particulières, avec plein de symboles, des images fortes, pour montrer que ce n'est pas par la force humaine qu'on avance, mais par l'Esprit de Dieu. Et dès les premiers chapitres du livre, on voit qu'un ange vient lui parler et lui montre des scènes, des fois un peu étranges, pleines de symboles que Dieu utilise ensuite pour parler au peuple. Et ensuite, un peu plus loin, dans Zacharie 4, il est dit que l'ange, et c'est Zacharie qui écrit, et gloire à Dieu parce qu'on a ce texte écrit encore aujourd'hui, il est mis « L'ange qui me parlait est revenu et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil ». Alors on pourrait imaginer que l'ange vient, va le réveiller avec une plume d'ange, hein, comme ça, gentiment. Non, ce n'est pas ça. Si Zacharie dit que l'ange l'a réveillé comme on réveille un homme de son sommeil, moi je pense que c'était un peu différent que ça. Moi, quand je veux réveiller ma femme, je dis « Diane debout ». Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Diane. Mais c'est fou parce que Zacharie, il n'a pas juste une vision ou un rêve et puis il voit dans son sommeil un ange qui vient lui parler. Il y a vraiment un ange qui vient et qui vient le réveiller. Et moi, je pense qu'il a dû peut-être le secouer ou lui parler fortement. Puis lui dire, hey, réveille-toi, je vais te montrer quelque chose. Donc, ce n'était pas juste une vision un peu spie comme ça entre deux eaux. Des fois, Dieu nous parle quand on est à moitié réveillé ou dans nos songes. Et qu'est-ce que voit Zacharie ? Et là, Zacharie va décrire ce qu'il voit, parce que l'ange le réveille puis lui dit « Mais qu'est-ce que tu vois ?» Et il est dit au verset 2, Zacharie 4, 2, il lui dit « Ben, que vois-tu ?» Et j'ai répondu « Je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Et près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à droite du réservoir et l'autre à sa gauche. » Et c'est hyper précis. Il ne voit pas juste... Des fois, nous, peut-être qu'on dira, je vois quelque chose qui brille. Ah, il me semble qu'il y a plusieurs parties. Je ne sais pas. Mais lui, il voit clairement dans l'esprit. Il voit ce chandelier, ses 7 branches. Il voit clairement un chandelier tout en or, 7 branches avec 7 lampes. Et ce qu'il y a vraiment particulier, c'est qu'il y a justement un réservoir en dessus. Et de ce réservoir, il y a à chaque fois un petit conduit qui mène à chaque lampe pour amener de l'huile. Et cette huile, elle vient directement des oliviers qui donnent cette huile directement dans le réservoir. Et Zacharie 4,4, reprenant la parole, « J'ai dit à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que ça signifie, mon Seigneur ?» Et l'ange qui me parlait m'a répondu, « Mais tu sais donc pas ce que ça veut dire ?» Puis il a dit « Non ». Et l'ange paraît surpris qu'il ne comprenne pas ce que c'est. Et là, ce que j'apprécie, c'est que Zacharie, il ne va pas inventer et puis se lancer dans une interprétation humaine. Et des fois, c'est le piège. On reçoit une image de Dieu, on reçoit quelque chose, on ne sait pas tellement ce que c'est, puis alors on imagine, ouais, ça peut peut-être dire ça, puis ceci, puis le réservoir, ceci, cela. Et c'est des fois le piège. Mais là, bravo Zacharie, parce qu'il a été honnête. Il a dit non, je ne vois pas ce que c'est. Et je pense que le plus simple, quand on a des questions, Dieu nous parle d'une façon où on a l'impression que c'est partiel, bah demandons à Dieu ce que ça veut dire, ou demandons à Dieu la suite. Qu'est-ce que t'entends, Seigneur, par ça ? Demandons le sens. Et au verset 6, en répondant, l'ange va lui dire un verset qui est devenu très connu. Et il va lui dire, alors, il reprit la parole et me dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et c'est tellement un verset qui est tellement fort qu'on connaît souvent. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par le Saint-Esprit que les choses vont bouger et que sa lumière va briller. On y reviendra plus tard encore avec ce verset. Mais pour qu'on puisse saisir toute cette vision et ce contexte que je viens de vous dire, on va lire encore 2, 3, 4, 5 versets. Verset 7 qui est dit « Mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?» C'était justement celui, le gouverneur, qui reconstruisait le temple. « Une plaine, il en extrait la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondements de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant le fil à plomb ou la pierre de mesure, selon comment on le traduit, dans la main de Zorobabel. Et ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Et sans vouloir transformer maintenant ce message, ce culte en un cours, je vais juste donner 2-3 bribes pour comprendre, mais surtout pour saisir vraiment ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Le peuple, il avait été déporté à Babylone. Et ils sont de retour, enfin, à Jérusalem, et Zorobabel est le gouverneur. Et il est dans la lignée royale, d'ailleurs, du roi David, petit-fils du roi Jéhoïakim. Et alors que le peuple est de retour à Jérusalem, il est en train de reconstruire ce temple. Et il fait face à une grande opposition. Et ce défi, il est comparé comme à une grande montagne. Et puis, lui, comme à une plaine, quoi, comme rien devant un immense défi, un immense challenge. Et ça, c'est parti à partir d'une parole qu'on trouve plutôt dans le livre de Zacharie. Un ange vient vers Zacharie et lui dit dans Zacharie 1,16 « C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera reconstruite, déclare le Seigneur, le maître de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem pour construire. » La reconstruction du temple, c'est vraiment le plan de Dieu. Et Zorobabel, il est en plein dans son appel en train de le faire. Et il désire que la maison de Dieu soit à nouveau à l'honneur, que Dieu soit glorifié comme il est digne. Et c'est tellement parlant à nos cœurs, parce que c'est aussi ce qu'on désire, c'est une maison de Dieu qui l'honore, qui soit remplie de sa présence, qui soit reconstruite sur la pierre angulaire qu'est Jésus, sur ce fondement aussi des ministères, comme une pierre vivante, comme un édifice bien coordonné. On voit ça dans Éphésiens 2,20, 1 Pierre 2,4. Mais comme Zorobabel, on peut sentir des fois peut-être l'opposition pour l'Église en général dans ce monde. Ce n'est pas forcément propice à ce que l'Église se lève. Et on peut sentir l'opposition dans l'atmosphère. Ça peut paraître une montagne d'être une Église puissante où Dieu de nouveau se manifeste. Et c'est là qu'est donné ce verset à Zacharie pour Zorobabel, reconstructeur de la maison de Dieu. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « ce n'est ni par puissance », Shaïl, en hébreu, veut dire aussi talent, compétence. Et le mot force, koach, veut dire force, puissance, force humaine. Autrement dit, ça veut dire quoi ce verset ? Ce n'est pas par les compétences, ce n'est pas par le talent, la force humaine, que Dieu va restaurer sa maison et amener sa gloire, mais c'est par le Saint-Esprit. Et c'est fort ce verset. Et le texte continue au verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine, il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et c'est de cette dépendance au Saint-Esprit qu'il va extraire la pierre principale. C'est toute la grâce de Dieu, Jésus, qui a amené cette grâce. Grâce, grâce pour elle. Et aujourd'hui, Jésus est cette pierre angulaire. Il utilise même ces mêmes termes, cette pierre principale dans Éphésiens 2,20, qui est ce fondement pour rebâtir l'Église, où le Saint-Esprit est allumé et brille. Et c'est fort. Et c'est par son esprit, grâce, grâce. même si je suis convaincu que Dieu aime l'excellence, qu'il aime utiliser nos talents pour ça, ce qui est déterminant et qui va faire la différence pour restaurer une église qui brille et qui a de l'impact dans ce monde de ténèbres, c'est le Saint-Esprit. On le sait, mais c'est le mode d'emploi qu'on lit. Et il est dit au verset 10, « En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre de mesure dans la main de Zorobabel, cette pierre pour reconstruire. » Ce sont les sept yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Et quel encouragement à rebâtir son temple malgré l'opposition ou de dépendre de Dieu. Et ensuite, il est parlé dans ce contexte, puis après j'aurais fini juste avec le symbolique, mais donc, il est parlé de deux oliviers dans ce contexte. Il y avait Zorobabel qui était ce gouverneur, qui est un peu une figure du côté royal, et Josué, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est ce grand prêtre, qui est le côté du serviteur sacrifice, une onction royale, une onction de servir Dieu dans sa maison, qui amène aussi à cette onction de couler. C'est tout un message en soi, mais ce n'est pas mon thème ce matin. Mais moi, ce qui me parle tellement dans ce passage et qui va tellement aussi dans la suite de mon précédent message d'il y a un mois, je vous avais parlé d'avoir soif de Dieu et non seulement d'aller de source en source, non seulement d'aller de message en message, non seulement d'aller de conférence en conférence, non seulement de zapper de YouTube en YouTube, mais comme on avait vu, Jésus qui installe une véritable source d'eau en nous qui coule sans fin, qui coule de là. Et quand on a envie d'être connecté, rafraîchi, entendre Dieu, il est juste là. Et ça coule, tout simplement. Ne résistez pas à l'écouter ou le réécouter. Je parlais de ces trois niveaux. On peut ne pas forcément avoir soif de Dieu, parce qu'on a fait le tour avec les années. Hein. Ça, c'est le premier niveau. Ou on peut être assoiffé de plus, et puis chercher partout. Deuxième niveau. Ou ce troisième niveau, où on a carrément cette source. Ces fleuves d'eau vive qui coulent sans fin. Ce dont parlait Jésus à la Samaritaine. Et moi, ce qui me frappe dans cette vision du chandelier que je viens de vous donner, et je crois que c'est vraiment la pensée de Dieu aussi, c'est qu'à nouveau, il y a un aspect qui est fou. C'est que ce n'est pas juste le chandelier comme il y avait dans le tabernacle, avec sept branches. Dans le tabernacle, il y avait aussi un chandelier qu'on appelle aussi la menorah, avec sept branches. Le sacrificateur, il allait tous les jours pour allumer le chandelier. Chaque lampe, c'était son job. Exode 27-20, il est dit qu'Aaron devait veiller qu'elle brûle continuellement. Lévitique 24-4 nous dit que le prêtre s'occupait des lampes et rajoutait de l'huile quand il n'y en avait plus. Et Exode 27 nous montre que c'est le peuple qui devait amener de l'huile vierge d'olive. C'est beau, c'est fort, mais ce qui est puissant avec cette vision de Zacharie, c'est que ce chandelier avait un réservoir qui alimentait directement les lampes et ce réservoir était connecté directement à l'huile. Cette onction qui coule sans fin, tout simplement. Et je crois que c'est ça que Dieu désire pour nous, une connexion directe à l'onction du Saint-Esprit pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Alors qu'on pourrait ne pas arrêter, on pourrait sans arrêt s'affairer pour ça, un petit peu comme dans le tabernacle, veiller à ce qu'elles ne s'éteignent pas, puis quand elles s'éteignent, on va vite en rallumer, ou il faut aller chercher ici un peu d'huile. Et puis voilà, on peut même être stressé un peu par ça. Mais si on est connecté à cette huile qui coule directement, c'est ça que Dieu désire, une huile qui coule sans fin à ces arbres. Et dans cette vision, c'est l'aspect du leadership, du sacrificateur. Et dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu ne veut plus d'intermédiaires, comme dans l'Ancien Testament où seul le sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré, l'accès est pour tous. C'est ce qu'on a lu au départ, cette Pentecôte, l'Esprit était pour tous. Dieu a aussi quand même établi les ministères, comme on le voit dans Éphésiens 4, pour que son onction puisse continuer de couler, pour construire, pour encourager, pour équiper l'Église. Mais ce que je sens, c'est que Dieu veut vraiment nous faire entrer en tant que personne et en tant qu'Église dans cette plénitude. Dans cette plénitude. Et on passe ou on va passer du stade de lampe qui s'éteigne, de devoir aller chercher de l'huile pour que ça s'allume ou que ça se rallume, où on passe notre vie chrétienne à chercher de l'huile pour rallumer nos lampes qui n'arrêtent peut-être pas de s'éteindre. Et on a tellement de choses, c'est tellement vite éteint, une lampe. Une contrariété, un vent contraire, et après il faut recommencer. Ça fait un moment qu'on ne les a plus rallumés, il faut se reconnecter, il faut aller rechercher, soit personnellement en nous, si on a cette source, gloire à Dieu, ou à gauche, à droite. Et on peut s'affairer à ce que nos lampes brûlent, comme du temps de l'Ancienne Alliance et du tabernacle, où il faut toujours faire, pour que ces lampes au moins soient allumées, en papillonnant partout, avec soif, et même avec stress. Et en tant qu'Église, on peut vivre finalement, on peut vite penser que ce sont nos compétences, nos stratégies, qui vont reconstruire une maison remplie de sa présence. Il y a tellement de théories. Mais cette pensée, je crois que ça nous rappelle que c'est le Saint-Esprit, où on est connecté au Saint-Esprit qui est constamment là, qui va faire que ces lampes, elles brûlent constamment. Là, je vais vous mettre une citation. Je ne crois pas que je l'avais déjà dite, mais elle pique beaucoup, mais ce n'est pas à moi, donc ce n'est pas grave qui l'ai dit. C'est un pasteur, un homme de réveil du siècle passé, A.V. Tozer, qui a dit « Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne s'en rendrait compte. Mais si le Saint-Esprit était retiré de l'Église du Nouveau Testament, 95% de ce qu'il faisait aurait cessé immédiatement. » Une église qui veut le réveil, elle est fondée sur le Saint-Esprit. Bien sûr, on doit s'organiser aussi pratiquement. Jésus, il a organisé la multiplication des pains. Ce n'était pas l'anarchie, c'était organisé aussi. Il mettait les gens en rangée. Il savait organiser. Mais c'est par sa force, c'est par ses idées, c'est par son atmosphère, c'est par son feu, c'est par ce zèle, cette passion qu'il met en nous qu'il va le faire. C'est par son esprit. Comment ? Pas juste en cherchant de l'huile partout qui va allumer les lampes, mais c'est une vie connectée à cette huile d'onction. Comme ce chandelier où les lampes avaient chacune un conduit, où l'huile alimentait ces lampes qui brûlaient, et le réservoir n'était jamais vide, parce qu'elles étaient connectées aussi à cette onction royale, cette onction de sacrificateur, à ces oliviers qui constamment coulaient au fur et à mesure. Et le chandelier n'arrête pas de briller, d'être allumé, et il est directement alimenté automatiquement. Et moi, c'est ce que je désire pour ma vie. C'est passer du stade de chercheur d'onction au stade d'être connecté à une onction qui coule sans fin. Et c'est super d'être un chercheur d'onction. On avait lu ce livre « Chasseur de Dieu, chercher sa présence ». On peut être lassé puis même pas le faire. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin qu'un chasseur, un chercheur d'onction. J'ai envie qu'elle coule. Je suis connecté, elle est là. Elle est là tout le temps. Être connecté au Saint-Esprit durant mes journées, tout au long de la semaine. Je lui parle, il me parle. Je lui parle, je l'entends. Je désire, comme dans cette vision de ce chandelier, que ces 7 lampes soient allumées. Et je désire pour l'Église en général et l'Église Passion qu'elles soient connectées à ces conduits où l'onction coule en continu. Waouh ! Quelle vision forte de Zacharie qui nous parle aujourd'hui. Et il prophétise vraiment cette nouvelle Pentecôte. Ce n'est pas juste un parallèle que je fais. On voit dans Zacharie 12, 10, il est dit « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Il parle déjà 500 ans avant la venue de Jésus. Il parle déjà de ce peuple qui vont regarder à Jésus, qui a été transpercé. Ce qu'il est en train de donner comme vision, le message de Zacharie, c'est pour nous qui croyons en celui qui a été percé. Et comme il est dit dans Zacharie 9:9, il parle aussi du roi qui viendra humble, monté sur un âne. C'est ce qui s'est produit 500 ans avant, il le dit. La vision de Zacharie, c'est pour maintenant. Et dans cette vision du chandelier, ce que l'Esprit veut faire, c'est ce que l'Esprit veut faire aujourd'hui. Brûler continuellement en étant connecté à la source d'onction. Et si ce texte de ce chandelier m'a parlé, c'est parce que j'avais été interpellé quelque temps avant que je lise cette vision par un autre passage. Et ça s'imbrique tellement, vous allez comprendre. C'est un peu la deuxième partie de mon message, l'intro, c'était la Pentecôte. Maintenant, on a eu cette vision du chandelier à cette branche qui est connectée sans continu. Et là, vous allez voir cette deuxième partie où un autre prophète dans la Bible partage une parole qui m'a vraiment interpellé. C'est pour ça que je prêche là-dessus aujourd'hui, qui donne vraiment cette perspective à cette vision du chandelier. C'est un passage d'Ésaïe qui est vraiment puissant. Figurez-vous qu'il va écrire ces choses 700 ans avant la naissance de Jésus. C'est même 200 ans avant Zacharie. Et petite parenthèse, des fois, quand on reçoit une parole prophétique, on trouve long que 2 mois après, ce ne soit pas encore accompli. Ou même 2 ans après. Là, 700 ans après, ça va s'accomplir. Et ce qui est super puissant, c'est que 700 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe va prophétiser la venue du Messie, du Dieu qui vient sur terre en tant qu'homme et qui sera rempli, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, qui sera rempli de l'Esprit de Dieu. Et la suite de la prophétie parle également d'ailleurs du retour de Jésus qu'on attend tous encore, qui ne s'est pas encore accompli. Mais mon propos ce matin, ce n'est pas ça. Mais il est dit dans Ésaïe 11, verset 1. « Puis, un rameau poussera de la souche d'Isaïe. » C'est le père de David, Isaïe, c'est pas Ésaïe, c'est Isaïe. « Un rejeton de ses racines portera du fruit. Et c'est fou, c'est que Zacharie dira d'ailleurs presque la même chose quand il dira dans Zacharie 3:3 « Je vais faire venir mon serviteur le germe ». C'est cette petite pousse. Et Isaïe, qui est le père du roi David, au moment où Isaïe prophétise ça, c'est environ 300 ans après le règne de David. Et le royaume de Juda existe encore, mais il est spirituellement malade, politiquement fragile. Et Isaïe, avec sa pensée, anticipe et prophétise la fin de ce royaume. Et ça se passera 150 ans plus tard. Avec la déportation à Babylone, avec le temple de Salomon qui est brûlé, et la royauté de la ligne de David qui est coupée. C'est ça, cette souche. C'est une souche, c'est fini. Une royauté coupée, comme morte. Et Isaïe prophétise que de cette lignée, il va faire pousser une brindille, un rameau, une branche naîtra de ses racines. Et ce mot hébreu « shoter » veut dire un rejeton, branche, brindille. De ce royaume coupé va naître quelque chose. Il annonce la venue du Messie, celui dont la Bible dira qu'il n'a rien pour attirer le regard. Celui qui ne va pas venir comme un super héros, mais comme un nouveau-né, un petit être tout frêle, comme cette brindille. Et il en est dit, et c'est ça qui nous intéresse ce matin, c'est pour ça que je prêche là-dessus, donc si vous avez décroché, recroché, écoutez la suite du message. Dans Ésaïe 11, il est dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Quand il parle de cette brindille de Jésus, « Esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Elle dit encore, il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Quelle prophétie 700 ans avant que ça arrive. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il est mis que l'Esprit du Seigneur va être sur cette brindille, sur ce Messie. D'ailleurs, plus tard, et ça se passe, quand Jésus il est de la synagogue, qu'il ouvre un autre passage d'Ésaïe, plutôt 61, ou plutôt il déroule le rouleau, et puis il va justement dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ça s'accomplit, cette parole. Et plus tard, après sa mort à la croix et sa résurrection, avant de retourner à la gloire, dans la gloire vers son Père, il dit « Je vais vous envoyer cet Esprit pour tous ». C'est ce même Esprit dont il est question là. Et ça s'est produit justement à la Pentecôte qu'on célèbre aujourd'hui et que j'ai parlé en introduction. Mais ce qui est frappant, c'est qu'Ésaïe ne parle pas juste de cet Esprit de Dieu, de ce Saint-Esprit, mais il est carrément parlé de cet Esprit de Dieu. Et là, c'est ce qui est frappant, et c'est ce que je veux pour ma vie, c'est ce que je veux pour l'Église. Ce n'est pas juste un encouragement pour être boosté dans le Saint-Esprit. Mais comme Jésus nous l'a promis, que ce même Esprit qui était sur lui repose sur nous. C'est ça qu'il a promis. Et là, on a vu qu'Ésaïe, dans Ésaïe 11, il décrit ce Saint-Esprit en parlant de ces sept esprits de Dieu. Il a dit, c'est ça qui va être sur cette brindille, qui va naître de cette souche. Et Ésaïe nous montre les différentes facettes du Saint-Esprit, les sept esprits de Dieu. L'Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse, Esprit de discernement, Esprit de conseil, Esprit de puissance, Esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. On parle souvent de la plénitude, c'est-à-dire d'être plein du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas juste être plein de plus, un peu plus du Saint-Esprit. Se sentir bien, visité, euphorique, parler en langue, juste être comblé de sa paix. C'est ça bien sûr. Mais c'est bien d'autres choses aussi. C'est bien d'autres choses aussi la plénitude. Ça peut dire encore plein d'autres choses, plein d'autres manifestations. Mais on voit dans la Bible que le chiffre 7, d'une façon générale, et je vais y faire très vite là-dessus, mais ça exprime la plénitude. Dieu, il a créé la terre en 7 jours, qu'il soit de 24 heures ou des périodes, ce n'est pas la question ce matin. Mais il est dit que le 7e jour est sanctifié parce qu'il marque l'achèvement parfait de la création. Et on revoit cette symbolique du chiffre 7. D'ailleurs, la fête de la Pentecôte a lieu 7 semaines après Pâques. Toujours. 7 semaines de 7 jours. D'ailleurs, le mot Pentecôte vient du mot grec Pentecoste, là ça ressemble pour cette fois, merci. Est-ce qu'il veut dire 50e ? Pentecôte veut dire 50e. Après, c'est 7 fois 7 jours, c'est 49. C'est le 50e jour après la croix. Pentecôte se fait toujours 7 fois 7 jours après Pâques, le 50e. Et on voit aussi dans la Bible, il y a toujours ce principe, la 7e année, c'était une année sabbatique. Et puis après 7 fois 7 années, c'était le jubilé, le 50e. qu'est-ce qu'on vient de lire avant ? La vision du chandelier à 7 branches. Bref, je l'ai fait rapide, mais ça exprime la plénitude de Dieu. Et là, ce qui est dingue, qu'Ésaïe décrit, ce que c'est d'avoir la plénitude du Saint-Esprit comme Jésus l'a eu. Ce n'est pas juste l'Esprit Saint sur lui, ce n'est pas juste une colombe ou une langue de feu, ça c'est des manifestations de cet Esprit. Ce n'est pas juste plus, Seigneur. Alors oui, moi j'ai envie de plus, bien sûr, mais il va énumérer les 7 Esprits de Dieu. D'ailleurs, Apocalypse 1,4 nous dit « Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. » C'est quelque chose dont on ne parle jamais. Et c'est ce passage d'Ésaïe qu'on a lu avant, moi ça m'a interpellé. Et pour moi, c'est une clé pour aller plus loin dans la maturité, d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli pleinement du Saint-Esprit, ce n'est pas juste la cocotte vapeur qui manifeste à un moment donné. Quand la marmite à vapeur, elle est tellement pleine, ça éclabousse, ça se manifeste, puis ça déborde sur les autres. Il y a ce côté qui peut arriver, gloire à Dieu. Mais c'est avoir ces 7 esprits de Dieu, ces 7 facettes de la personne du Saint-Esprit en nous. C'est avoir les 7 lampes du chandelier qui sont allumées. Vous voyez le lien maintenant entre cette vision du chandelier de Zacharie qui continuellement sont alimentées par cette huile qui brûle. Et c'est cet esprit de Dieu. Il est parlé déjà de l'esprit de l'Éternel. Pardon, c'est l'esprit même de Dieu. Comme quand à la création, il y avait cet esprit de Dieu, ce souffle qui a donné la vie. Quand le Père, il a soufflé dans l'être humain qui était encore inanimé et pas encore vivant, ça lui a donné la vie, cet esprit de Dieu. Et c'est le plan initial de Dieu, c'est qu'on ait ce même souffle de Dieu en nous, cette vie. Et ça, c'est l'esprit de l'Éternel. Et c'est l'esprit même qui est en Dieu. Le Père, qui souffle en nous. Et il est parlé ensuite d'un deuxième, c'est l'esprit de sagesse. C'est cette capacité à voir les choses selon la perspective de Dieu, une pensée renouvelée. La sagesse, ce n'est pas un manque de courage. Au contraire, c'est voir plus loin et plus large. La sagesse, elle nous donne la connaissance et la capacité de faire les bons choix au bon moment. Moi, j'ai envie de cet esprit de sagesse pour faire les bons choix au bon moment. Ce n'est pas juste être un peu plus sage, mais savoir une part de la plénitude du Saint-Esprit. Je veux avoir cette lampe du chandelier d'esprit de sagesse qui brûle dans ma vie. D'ailleurs, la sagesse, c'est une part du Saint-Esprit. Vous prenez le Proverbe 8. Ça nous montre que la sagesse, ce n'est pas juste une notion, ce n'est pas juste une valeur, mais c'est juste cet esprit de Dieu. Moi, verset 12, moi la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Je suis l'intelligence elle-même. C'est moi qui donne la puissance. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. On voit que la sagesse, c'est une personne qui était déjà là avant la création du monde. C'est une part que Dieu veut nous donner pour vivre cette plénitude de l'esprit. Et ce n'est pas tout. Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit de discernement. Des fois, on traduit le même mot aussi, esprit d'intelligence. Ça veut dire ce mot hébreu binya, c'est la même chose. Compréhension, discernement, connaissance, c'est une compréhension selon Dieu. C'est une intuition spirituelle, c'est un regard aiguisé. Ça permet de voir au-delà de la première couche de l'apparence. Comme ce verset qui dit, l'Éternel regarde au cœur, pas juste à l'apparence, à ce qui se voit. C'est carrément voir les racines, puis pas juste l'arbre ou la plante, mais c'est tu vois les racines, qu'est-ce qui produit, pourquoi ça se passe comme ça. C'est voir les 90% de l'iceberg qu'on ne voit pas. Ça, c'est cet esprit. Esprit de discernement, d'intelligence, de capter les choses dans son ensemble, même ce qui ne se voit pas, qui vient de Dieu. J'ai envie d'avoir cet esprit allumé dans ma vie. C'est un des 7 esprits de Dieu. Et il y a aussi l'esprit de conseil, dont il est fait question dans Ésaïe 11. C'est une aptitude à donner des conseils sages ou aussi à en recevoir, la sagesse d'en recevoir, pour prendre des bonnes décisions, tant pour soi-même que pour les autres. Et pour moi, vous savez que notre mascotte, c'est la girafe. Et la girafe, elle a la tête au ciel, mais elle a aussi les pieds sur terre. Et ma définition personnelle pour l'esprit de conseil, c'est cette capacité à pas juste planer dans les hautes sphères, mais à traduire ça dans le concret de la vie de tous les jours, pour savoir comment faire dans mon concret, dans mes journées, dans mes matinées, dans mes jours de semaine, dans les choix pratiques de ma vie. C'est ça, avoir les pieds sur terre, pas juste dans le ciel. Et il faut, parce qu'on pourrait être que dans le concret, et puis on voit que le sol, puis jamais rien. mais c'est d'avoir les deux choses. C'est la tête connectée à Dieu qui nous parle, mais après, avec cet esprit-là, on va pouvoir savoir, cet esprit de conseil, c'est comment le mettre en place dans nos vies ou comment le mettre en place vers les gens, peut-être qui ont besoin de voir comment cette pensée prophétique, comment elle se concrétise dans le concret. C'est pas juste être hyper spi, mais on est inspiré dans le concret. Et moi, j'aime cet esprit de conseil et je le veux davantage dans ma vie. Et le texte continue avec, comme un des sept esprits de Dieu, il est parlé d'un esprit de puissance. Un esprit de puissance ou esprit de force, c'est le même mot. Cette force spirituelle pour agir, pour affronter, pour triompher, c'est une force spirituelle et c'est une capacité d'agir aussi avec efficacité malgré les défis ou résistances. C'est une audace qui est sainte. Il y a cette puissance de Dieu qui nous fait aller de l'avant. Comme des fois, il faut cette force comme du buffle ou du bulldozer qui va et qui fonce et qui ne se laisse pas arrêter par le vent contraire. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'avoir. Pas juste où on est là avec une vue d'ensemble, on comprend les choses, mais à un moment donné, des fois, il faut y aller. Et ça, c'est cette force, c'est ni par force, ni par puissance humaine. Mais c'est justement par cette force, ces esprits du Saint-Esprit qui nous donne cette force lui-même pour aller de l'avant. Et il est parlé aussi d'un esprit de connaissance. C'est une compréhension intime des choses de Dieu, des vérités de Dieu. On va les saisir, des vérités spirituelles, mais aussi des vérités du monde. C'est une connaissance qui va au-delà de l'intelligence humaine, qui touche à la révélation de Dieu. Ce n'est pas juste théorique, c'est savoir ce que Dieu fait, ce qu'il fait, et puis comment s'accorder à ça. C'est savoir ce que Dieu fait. Et moi, j'ai envie d'avoir cet esprit en moi. J'ai envie qu'on ait ça dans l'Église. Et enfin, le septième esprit, c'est un esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de crainte de l'Éternel. Et ce n'est pas de la peur, mais c'est l'attitude d'un cœur qui honore Dieu profondément. Et quand j'ai eu cette image avant dans la louange, où je voyais, j'entreapercevais juste la silhouette de la tête du Fils et ses yeux comme des flammes de feu. J'ai eu cette crainte qui était là de me dire, waouh, il est là. Et j'ai envie que cet esprit de crainte brûle dans ma vie. Un respect puissant qui honore Dieu dans ma vie. Elle garde le cœur pur et centré sur Dieu. Et j'aime beaucoup cette citation de Leonard Ravenhill qui a dit « Celui qui craint Dieu ne craint aucun homme. Et celui qui s'agenouille devant Dieu se tiendra debout en toute situation. » Si tu as cette crainte de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas craindre l'homme. Si tu as cette crainte, ce respect profond de Dieu, tu ne vas pas être impressionné par les défis ou par des personnes ou des gens influents. Parce que celui qui est digne, celui qui était, qui est et qui sera, devant qui tu t'agenouilles, toi tu es debout devant toute situation, tout défi. Et alors que ce texte des sept esprits m'avait interpellé et que c'est toujours là fort en moi, c'est là que je suis tombé justement sur ce passage de Zacharie et bing, ça a fait le lien. Je dis, mais Seigneur, c'est cet esprit, c'est ça ce chandelier. Et moi je veux pas juste ce chandelier où il faut chaque jour allumer et veiller pour que chaque branche, chaque lampe brûle. Mais j'ai envie qu'elle soit toute allumée. Moi, j'ai envie de la totale. Que ces sept lampes brûlent. C'est ça, la plénitude. Que nos vies soient branchées directement à la source qui amène cette onction, cette huile d'olive pressée. Ça vient de cette intimité avec Jésus. Je vous avais fait un message où je parlais de Gethsémané, qui veut dire pressoir à huile. Ce mot Gethsémané, ça veut dire ça. C'est de là que vient cette huile d'onction de Jésus. Quand on est cette intimité avec Jésus, l'huile, c'est pressé et ça coule dans nos vies. C'est ça qui va remplir notre être, notre esprit. Et ces conduits qui vont allumer directement, automatiquement, chaque lampe de notre chandelier. Et moi, en voyant ça, j'ai dit, Seigneur, moi j'aimerais que mon chandelier, dans ma vie, il n'ait pas juste une, deux ou quatre branches ou cinq branches allumées. Je veux les sept lampes de mon chandelier soient allumées. C'est ça la plénitude. Alors ça serait déjà pas mal d'en avoir un ou deux ou trois. Mais moi je veux le tout. Je veux cette plénitude de l'esprit. Je veux les sept esprits. Je veux les sept branches du chandelier allumées. Esprit de l'Éternel. Esprit de sagesse. Esprit de discernement. Esprit de conseil. Esprit de puissance. Esprit de connaissance. Esprit de crainte de l'Éternel. Et une église qui va faire la différence dans les ténèbres, c'est une église où l'esprit coule en abondance et où les sept esprits brillent. Pas juste la sagesse ou la connaissance, mais pas de puissance. pas juste la puissance, une fougue, le surnaturel, les miracles, ça serait génial, gloire, gloire. Mais c'est une des lampes sur sept. Il y a le tout. Et je suis convaincu que Dieu veut nous amener en tant qu'Église à ce que toutes nos branches soient allumées. Moi, c'est ce que je rêve, c'est ce que je désire. C'est ça, cette Pentecôte que je veux vivre. C'est ça, notre Pentecôte aujourd'hui. Et ce que le monde attend, ce n'est pas une Église plus stratégique, avec plein de projets, mais c'est une Église en feu. C'est une Église en feu. Et on pourrait mettre l'accent juste sur la puissance ou sur le naturel, ou juste sur la connaissance, puis faire un groupe où on fait juste d'étudier la Bible et toutes les choses qui vont autour. Non, je crois qu'une Église qui brille, c'est une Église qui est vraiment connectée à l'Esprit de l'Éternel. Et il y a cette plénitude où les sept branches brûlent. Et ce matin, alors qu'on célèbre la Pentecôte, cette fête, cette semaine après Pâques, Dieu désire nous faire aller plus loin et allumer, pas seulement une, deux, trois, quatre, mais les sept lampes de notre vie. Pareil pour l'Église Passion. Pas juste une part, mais qu'elle brille et qu'elle impacte la région pour que les ténèbres reculent, qu'il y ait un réel impact. Et je crois que c'est ce que Dieu désire pour l'Église en général. Et c'est pour ça que Jésus a fait la différence dans son ministère. Parce qu'Ésaïe a prophétisé qu'il avait ces sept esprits-là. L'Esprit de l'Éternel, et il décrit les sept, vont être sur ce rameau, sur cette brindille qui va pousser de cette souche coupée. Il y avait la plénitude, pas juste une facette. Et c'est pour ça que la première Église, elle a reçu aussi la plénitude de cet Esprit. C'est pour ça qu'elle a fait la différence. Et que la Pentecôte a eu tant d'impact. Et parfois le danger, ça serait qu'on soit des spécialistes d'un aspect. Juste une Église tellement sage ou tellement puissante, je ne sais pas. Alors que ce qui va éclairer avec un impact fort, c'est quand l'Esprit en entier, comme ceux qui sont devant le trône, sont en feu dans nos vies. Et souvent on dit « J'aimerais plus de toi, Saint-Esprit, dans ma vie. » Et là, la description des sept esprits, c'est pas juste « Je veux plus », mais ça montre les différents aspects, la plénitude que Dieu veut développer en nous. Et non seulement une Pentecôte 2.0, une nouvelle Pentecôte, mais j'allais dire, et c'était ça que j'ai mis comme visuel sur Instagram, c'est une Pentecôte 7.0, avec la totalité, avec ces sept esprits en feu dans nos vies, avec les sept esprits en feu en nous. Et pour terminer, et le groupe de louanges peut déjà venir, on va bientôt terminer, mais j'ai quand même encore une ou deux choses à dire, mais comme ça on pourra directement transitionner. Je me réjouis qu'on puisse prier après encore pour ça. On n'est pas juste venu écouter, ce matin on est venu pour être touché par ce feu de Dieu. J'aimerais encore me pencher sur le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et lorsqu'on parle de plénitude, d'avoir ces sept esprits de Dieu, voilà ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. Jean a une vision forte et Dieu lui parle. Et là, on va boucler la boucle avec cette conclusion un peu. Jean est saisi par l'Esprit et il entend une voix forte qui lui dit, dans Apocalypse 1:11, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, comme par hasard. Et chaque message est adressé aux sept églises, commence par une description de Jésus qui inclut des références du Saint-Esprit. Apocalypse 3.1. Voilà ce que dit Dieu. Voilà ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Apocalypse 4.5. Devant le trône brûlaient sept lampes de feu qui sont les sept esprits de Dieu. Apocalypse 5.6. Un agneau avec sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits que Dieu a envoyés sur toute la terre. C'est ça. C'est pas juste des bizarreries, c'est pas juste, mais c'est un aspect plein de Dieu qui va plus loin que juste d'être touché par un aspect du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est comme ça, une plénitude. Et au tout début de l'Apocalypse, Jean a une vision glorieuse de Jésus dans la gloire. Et je vous le partage, parce qu'avec ce qu'on a vu avant, c'est juste assez fou. Apocalypse 1:10, « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Et elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour voir d'où venait cette voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Waouh, Jésus. Et une partie du verset 20 nous dit, « Quant au mystère que tu as vu, les sept chandeliers sont les sept églises. » C'est ce qui est marqué. Chaque église était représentée par un chandelier. Et moi, ça me parle. Parce que j'ai envie que dans cette église, le chandelier qu'est notre église, ces sept flammes brûlent. Il y a ici sept esprits. Et la boucle est bouclée. Une église qui brille, c'est une église dont le chandelier aux sept esprits est allumé. Tu es l'église, je suis l'église. C'est ça que je veux dans ma vie. Et je crois que Dieu ne veut pas juste qu'on ait un aspect de son esprit, mais la plénitude. Pas juste la sagesse, mais la force. Pas juste la force, mais un esprit de conseil, la vue d'ensemble. Pas juste le discernement, mais cet esprit de l'Éternel, ce feu de Dieu. Et j'ai bientôt terminé, mais je vous dis quand même ça. Il y a 15 jours, on a eu un orateur, Marc Stuby, en parlant à la fin avec sa femme, Anne, elle a dit ce qui l'a frappé il y a 2 semaines ici, c'est justement la passion qu'il y avait de la part de toutes les personnes avec qui elle a parlé et de toutes les interventions qu'il y avait eues et ce qui se vivait. C'est tellement encourageant, un regard de l'extérieur. Elle sentait, elle a dit, ah, il y a une faim, il y a une soif ici, il y a quelque chose qu'elle ne sentait pas ailleurs ou d'où elle vient. Mais moi, ça m'encourage. Mais j'ai envie de dire, je veux plus. Je veux ces 7 lampes allumées. Il y a encore plus d'impact à avoir dans cette région. C'est déjà là, les gens le sentent. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Moi, j'ai envie de la totale, j'ai envie de cette plénitude de l'esprit. Et aujourd'hui, alors qu'on fête cette Pentecôte 7.0, c'est ça que j'ai envie de vivre. Dieu désire que nous soyons touchés par toutes les facettes du Saint-Esprit, que toutes les branches du chandelier soient allumées. Et j'entendais vraiment Dieu nous dire ce matin, il y a un message. L'esprit amène le feu. Ce n'est pas juste un zèle, mais c'est un cœur aligné à ma pensée. C'est-à-dire des hommes et des femmes alignés à ma pensée, qui laissent mon esprit les travailler, les transformer. C'est ça, briller et être allumé. C'est laisser la voix de l'esprit non seulement manifester la puissance, la vie, la spontanéité, mais c'est également consumer, purifier et aligner son cœur par le feu. C'est le chemin pour que ma puissance soit diversée, toujours plus en abondance. Et pour terminer, je vais vous partager juste cette pensée prophétique que j'ai notée. Ensuite, on prendra un chant, on va vivre quelque chose ensemble ce matin. Mais je vous partage juste ces mots que je vous retranscris, qui étaient fortes dans mon cœur, qui a un peu un résumé, la conclusion de ce message. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est l'expression de qui je suis. Ma vie, mon feu, mon esprit sur chacun. Sur chacun, c'est-à-dire chaque personne présente ce jour-là dans cette chambre, c'est-à-dire un groupe d'hommes et de femmes, de tout âge, de jeunes de tout âge, des plus âgés, des plus jeunes, affamés et assoiffés de ma présence. C'est sur ceux-là que mon esprit a été répandu. C'est l'accomplissement de cette image prophétique de chaque branche du chandelier qui est en feu, directement connectée à mon esprit. Et je désire une église sur laquelle et en laquelle déposer ce feu qui brûle. C'est-à-dire une église avec un chandelier où chacun est connecté à ce conduit de mon onction qui brûle. Et pas en cherchant sans cesse un peu d'huile par-ci par-là, mais réellement connecté à mon esprit qui permet à ce feu de brûler encore et encore. Une personne en feu change tout l'atmosphère de sa famille, de son quartier, de son travail. Une église en feu change l'atmosphère de sa région, impacte les puissances et les gens. Aujourd'hui, vivez cette Pentecôte et ce déversement de mon feu. Et moi, je veux dire amen à cette pensée. Amen, Seigneur. Moi, c'est ce que je désire pour ma vie, c'est ce que je désire pour cette église. Et pour terminer, c'est mon dernier mot. Un homme de réveil que j'ai déjà cité une fois, John Gillet, qui l'a dit, le Saint-Esprit ne vient pas pour nous rendre spectateurs, mais pour faire nous des flammes vivantes. Et c'est ça que l'Esprit de Dieu veut faire aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais vous inviter maintenant à vivre, si vous avez été aussi touché aussi par ce message, mais moi, je sens qu'il est là et qu'il a envie d'enflammer ma vie, il a envie d'enflammer nos vies, il a envie d'enflammer cette église dans une dimension bien plus grande. Pas juste plus, mais que ces 7 lampes soient allumées. On va prendre un chant qui parle du feu de Dieu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se lever. Mais j'aimerais même inviter ceux qui le désirent, qu'on puisse se rassembler ici devant pour chanter ce chant et dire, Seigneur, moi, je veux ce feu. Je veux ce feu. Je crois que tu es là dans cette pièce, Jésus, et je désire que ton regard enflamme mon cœur. Alors venez ici devant, venez sortez des rangs et chantons ce chant pour ton feu. On verra ensuite, on va encore prier à la suite de ce chant, mais que ce feu de Dieu puisse venir saisir nos vies. Alléluia, alléluia, viens Seigneur.